premier épisode sur Fréquence Mistral digne du Café Bien-être. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Marie et Michel de l'association Jalmalve pour présenter donc cette nouvelle émission. Pour ce mois de février 2026, un thème, comment être aidant avec un proche en deuil. Anne-Marie et Michel sont toutes les deux adhérentes à l'association Jalmalve 04, jusqu'à la mort accompagner la vie. Elles sont toutes les deux dans l'accompagnement, non seulement dans l'association, mais également dans leur vie professionnelle. Bonjour à toutes les deux et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du deuil et comment aider un proche en deuil. On nous demande souvent que dire, que faire. Je n'appelle pas car j'ai peur de rendre la personne triste. J'essaie de la rassurer. J'aimerais qu'elle ne pleure pas. Je me sens impuissant. Alors, Michel, pourquoi est-ce si difficile d'aborder le deuil ?
Alors, dans notre société, aujourd'hui, il y a l'illusion, le mythe, d'être toujours au top, d'être parfait dans tous les domaines, et notamment celui du deuil. Il faut vite tourner la page, hein, il faut rester battant, actif. On entend des expressions comme « il est encore triste »,« il n'a pas fait son deuil »,« ce n'est pas normal ». Alors, il faut bien comprendre qu'accompagner une personne en deuil, ce n'est pas forcément facile. Car celui ou celle qui vient de perdre un être cher vit une douleur extrême et on ne peut pas la diminuer, même avec la meilleure intention. Alors d'où souvent un sentiment d'impuissance qui peut décourager les bonnes volontés, les amis, les proches. Parce que chaque deuil est différent, chaque personne est unique et que du coup, chaque processus de deuil va dépendre de nombreux facteurs qui vont être propres à chaque personne, comme l'âge, l'état de santé, les ressources. Alors les ressources internes de la personne, mais aussi ses ressources externes. Les circonstances du décès, ça joue beaucoup aussi. Le type de décès, le niveau d'attachement et bien d'autres choses encore. Cette perte, elle peut changer beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Car à cette perte initiale, va s'ajouter toutes les autres pertes suivantes, comme par exemple, en cas de décès ou de séparation, les ressources ne sont plus les mêmes. Il faut peut-être quitter sa maison, son quartier, certains amis, ses voisins, ses habitudes. Donc ça va changer aussi ses projets, son devenir. Pour une personne âgée, il faut peut-être aussi entrer en EHPAD, laisser ses animaux de compagnie, changer ses habitudes. Tout cela va rajouter de la difficulté, de la douleur à la douleur, et ça va compliquer le processus de deuil, ça va le rallonger. Alors aussi, un deuil récent peut raviver des deuils plus anciens, comme la perte d'un compagnon, d'une compagne, peut s'associer à la perte d'un proche qui a eu lieu dans un autre temps, ou un autre type de deuil qui a été aussi difficile. Une dame âgée venait d'entrer en EHPAD et elle était très déprimée. Elle ne mangeait presque pas, elle pleurait souvent. Et le personnel disait « Elle n'arrive pas à s'habituer à son nouvel environnement, elle se laisse aller. Il faudrait la stimuler pour la faire réagir. » Alors il faut bien comprendre que cette dame, elle est dans des deuils multiples. La perte de son compagnon, de son environnement, de ses habitudes, de la maîtrise sur sa vie. Elle passe également du singulier au collectif. Pour elle, elle avait tout perdu. Elle n'avait pas la motivation et aussi pas l'énergie pour s'investir dans ce nouveau mode de vie. Alors, il faut beaucoup de patience, de compréhension et de douceur, de délicatesse aussi, je dirais. C'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire pour permettre, notamment à cette dame, de se sentir accueillie et en sécurité. Parce qu'on le verra par la suite, il peut y avoir beaucoup d'insécurité suite à des pertes importantes. Il n'est pas besoin de dire des choses particulières. Anne-Marie, tout à l'heure, tu me demandais que dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Non, il n'y a pas besoin de dire des choses vraiment. Mais par contre, d'être là. Oui, ça, c'est important. Répondre aux besoins de la personne, la laisser parler de ce qu'elle a perdu, que ce soit sa maison, ses habitudes, et laisser du temps au temps. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on a tendance aujourd'hui à vouloir faire le deuil à quelqu'un. Et non, on ne fait pas le deuil.
Non.
C'est un cheminement. D'ailleurs, on parle bien de processus. Donc, on verra tout à l'heure en quoi ça consiste, ce processus. Du coup, le plus difficile pour un proche, hein, c'est d'accepter l'impuissance. On est impuissant. On voudrait que la personne ne souffre pas. On voudrait empêcher le chagrin, la peur, la colère. Mais on doit lâcher prise. C'est justement, c'est nous, l'accompagnant, qui devons d'abord lâcher prise. Vous voyez, il faut lâcher prise avec le projet, le désir d'épargner la souffrance à l'autre. On ne peut que l'accompagner que là où il en est et pas où on voudrait qu'il soit. Je le répète, je le dis souvent, c'est le plus difficile. J'ai animé pendant une vingtaine d'années un groupe d'entraide au deuil, donc à l'association Jalmal 04, et une jeune femme nous disait « Mon compagnon n'accepte pas que je sois encore triste. Cela fait quelques mois que j'ai perdu mon frère d'un infarctus massif. C'était mon grand frère, mon repère. Il m'avait toujours protégé, aidé, soutenu. C'est comme si j'avais perdu une partie de moi-même et je n'arrive pas à surmonter ça. Il me manque. J'ai l'impression qu'il va apparaître et me parler dès que la porte s'ouvre. J'ai besoin de parler de lui, d'évoquer des souvenirs, de pleurer aussi. Et mon compagnon me dit que ben, maintenant, il faudrait tourner la page. Il voudrait que je sois comme avant. Mais je ne peux pas, c'est pas possible d'être comme avant. Il y a quelque chose qui a changé. Je n'ai pas envie de sortir m'amuser, de passer des soirées avec les amis. Alors je fais semblant pour lui faire plaisir. C'est pour ça que je viens au groupe, parce que j'ai besoin de me sentir comprise. J'ai besoin de parler de ma tristesse, de parler de lui, de parler de nos souvenirs. Ici, je peux déposer mes peurs et dire « Comment je vais faire sans lui ?» Mon compagnon semble irrité. Il me dit « Oui, mais je suis là, tu peux compter sur moi. Tu n'as plus besoin de lui, tu es une grande fille, tu vas t'en sortir. » Ça, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas du tout. Bien sûr, je peux compter sur lui. Mais ça n'empêche que je me sens jugée et j'ai toujours ma tristesse. Alors même si aujourd'hui, nous évoquons essentiellement la perte d'une personne, il existe bien sûr d'autres pertes dans la vie qui suivent le même processus. Par exemple, la perte d'un animal, une maison, toutes les pertes liées au développement, la vieillesse, mais aussi la maladie. Il peut y avoir des accidents, des changements dans l'image de soi, les pertes d'idéal, etc. Toutes les pertes, mais aussi les renoncements. C'est quelque chose dont on parle peu, les renoncements. Tous ces renoncements que nous vivons tout au long de notre vie ont besoin d'être identifiés, reconnus, exprimés. Elles ont besoin d'un certain temps pour cicatriser. Le deuil, c'est une blessure émotionnelle. Elle a besoin d'être soignée, elle a besoin d'évoluer dans le temps, comme une blessure physique, pour cicatriser. Une ancienne institutrice me disait « Je n'ai pas eu d'enfant et ça a été longtemps une grande souffrance. Et puis j'ai sans doute créé des liens assez forts avec les enfants qui venaient donc dans ma classe, puisque beaucoup m'écrivent encore pour me donner de leurs nouvelles et d'autres sont restés assez proches pour venir me voir dans ma vieillesse et me réconforter avec leur affection. » Donc là on parle bien de renoncement, mais aussi d'évolution dans ce renoncement. Toute perte importante pour la personne est donc un arrachement, une blessure émotionnelle qui, si elle est bien soignée, va guérir avec le temps en passant par différentes étapes. Elle va cicatriser, mais elle laissera toujours une trace. Thank you. demande aussi, et souvent, combien de temps ça prend un deuil? Alors Anne-Marie, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas vraiment de temps prédéfini. On trouve dans la littérature qu'un deuil prend environ 2 ans. Mais cela dépend essentiellement de la perte elle-même. Le processus de deuil peut être beaucoup plus long sans que cela soit anormal. Si on reprend l'exemple de la perte du conjoint, une femme perd son compagnon. Cela constitue la perte initiale. Suite à cela, toute sa vie va changer. Elle va devoir affronter la solitude, faire des choses qu'elle n'avait jamais faites auparavant, peut-être perdre son lieu de vie, déménager, perdre ses habitudes, perdre le soutien d'un quartier, des voisins, perdre ses repères. Vous voyez, c'est comme quand on jette une pierre dans l'eau. Il y a le rond initial et puis les autres cercles concentriques qui s'élargissent et qui représentent les deuils secondaires qui vont s'accumuler autour de la perte initiale et cela va rendre le cheminement beaucoup plus difficile, plus pénible et plus long. Plus on est âgé, moins on a de force et d'énergie pour affronter tout cela. Les pertes les plus difficiles sont souvent constituées des deuils les plus longs, comme la perte d'un enfant, le suicide d'un proche, une mort brutale ou une disparition. Perdre quelqu'un de cher, c'est comme perdre une partie de soi-même. C'est un arrachement, c'est une plaie émotionnelle et il faut du temps pour se reconstruire. Perdre un enfant fait partie des deuils presque impossibles. Ce n'est pas dans notre enveloppe de cohérence. Ce n'est pas normal pour un parent que son enfant parte avant lui. Et puis il y a cette fameuse culpabilité de n'avoir pas pu protéger son enfant. Le fait aussi de ne pas pouvoir voir la personne ou de pouvoir lui dire au revoir va augmenter la douleur et la difficulté à la laisser partir, voire de faire son deuil. Alors, schématiquement, on peut dire qu'il y a 3 grandes phases ou 3 grands temps dans le processus de deuil. Le premier temps est celui de la perte réelle avec le choc de la confrontation avec la mort. Face à cette réalité externe, intolérable, l'inconscient va mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de défense dans le but de se protéger de la douleur. Et ce mécanisme de défense s'appelle le déni. On entend alors la personne dire « Non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver. » Cette phase peut durer plus ou moins longtemps si le décès est brutal, inattendu, s'il y a incompréhension ou perte de sens. Cette phase peut être très réduite s'il y a une sorte d'apprivoisement avec la mort suite à une longue maladie. On parle alors de pré-deuil normal qui permettra aux proches, s'ils ont été accompagnés, de faciliter leur cheminement vers la réorganisation. Dans le cas des deuils blancs, pour les familles qui accompagnent une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, c'est le deuil de la relation qu'ils font. Quand la phase de déni se prolonge, on peut proposer à la personne de regarder des photos, des vidéos, écouter des musiques aimées par le défunt. Ces petits gestes, tout simples, permettent vraiment à la personne de pouvoir progressivement prendre conscience de cette rupture définitive. Ce qui va mener l'endeuillé à entrer en contact avec ses différentes émotions qui nous amène à la deuxième phase. Celle-ci vient presque en même temps que la première. C'est l'expression des différentes émotions, et il y en a. La colère, la tristesse, la peur, les remords, les regrets, la tentative de marchander avec la vie. On va commencer par la colère. Elle est liée à la prise de conscience de la perte définitive. Pourquoi cette mort? Pourquoi si tôt? Pourquoi n'a-t-il pas fait plus attention en conduisant? Je lui en veux de s'être supprimé. Cette colère, elle est envers ceux aussi qui n'ont pas su aider cette personne qui est partie. Ça peut être les ambulanciers, les médecins, les pompiers. Certaines personnes expriment leur colère et d'autres pas. Mais dans le temps, il est important que cette colère soit exprimée. Car gardée au fond de soi durant des années, elle peut être délétère. Alors dans ces cas-là, on peut conseiller à la personne d'écrire une lettre à la personne décédée ou aux personnes que l'on suppose responsables de cette personne morte en exprimant toute sa colère. Ce temps-là peut vraiment être un temps très fort. De se poser avec la personne tranquillement et de lui dire « Voilà, maintenant, tu te poses et tu vas prendre une feuille de papier et tu vas vraiment laisser sortir tout ce que tu as sur le cœur par rapport à cette colère. » Voilà. Et une fois que la personne aura tout mis, posé, on va dire, dans la matière, eh bien, après, elle pourra le brûler. Alors, là, on parle d'une colère éprouvée envers les autres, mais il y a aussi de la colère envers soi-même. Et souvent, cette colère envers soi-même, elle est liée à de la culpabilité. Comme exemple, il peut y avoir j'ai de la culpabilité parce que j'ai dit certaines paroles avant sa mort. C'est injuste. Je n'ai pas assez passé de temps avec lui. Cette culpabilité-là est aussi un moyen de rester en contact avec la personne décédée. Ce qui va rendre le lâcher-prise et le laisser partir beaucoup plus difficile. On le comprend bien, exprimer sa colère permet de soulager sa culpabilité, mais aussi de libérer sa tristesse. Il est donc essentiel d'exprimer les sanglots pour libérer les tensions intérieures. Là aussi, une personne qui ne va pas laisser ses émotions paraître, on peut lui conseiller de prendre ce temps-là, de se retrouver avec elle-même et d'écrire toute cette tristesse. Voilà. Ou elle, si elle ne l'écrit pas, elle peut aussi le faire toute seule dans un coin. Mais ce qui est vraiment important, c'est de sortir toutes ces émotions. Cette deuxième phase dont on parle de désorganisation est le temps le plus long du processus de deuil. Dans cette phase, avec l'expression des émotions, il y a en parallèle la recherche de la personne disparue. On recherche sa présence, les traces de son passage. On s'attend à la voir apparaître, même si on sait qu'elle n'est plus là. Peu à peu, on arrive à une forme d'évidence, une forme d'acceptation de la perte. Et si on arrive à lâcher prise, on va pouvoir arriver à la troisième phase, qui est une phase, un temps de réorganisation. Un temps qui tend progressivement vers l'acceptation plus profonde. La personne retrouve de l'énergie, la vitalité, l'envie de faire des projets. Elle est de nouveau disponible aux autres. La blessure émotionnelle due à la perte commence à cicatriser. Elle retrouve un rythme de vie plus normal avec un meilleur sommeil, une meilleure alimentation et elle recommence à se projeter dans l'avenir. Comme chaque personne est différente, chaque personne va réagir différemment. Certaines ont besoin d'activités et d'autres n'arriveront pas à accomplir les actes de la vie quotidienne. C'est pourquoi l'aidant devra s'adapter aux besoins de l'endeuillé. Thank you. Alors Michel, comment être aidant ?
Vous l'avez sans doute compris, hein, il va falloir de la patience et de l'écoute pour comprendre les besoins en fait de l'endeuillé. Comprendre là où elle en est, et encore une fois, vous allez dire, je me répète, mais pas où nous, on voudrait qu'elle soit. C'est ça le plus difficile dans l'accompagnement, on va dire, et même d'être avec un proche, voilà, qui est en deuil. Hein. On l'a vu sur l'exemple de la personne là, qui avait perdu son frère. C'est-à-dire que le proche, souvent, il perd patience, quoi. C'est parce que ça le fait souffrir. Pourquoi, en fait, on voudrait que l'autre ne souffre plus ? C'est parce que, aussi, ça nous fait souffrir. Donc c'est difficile d'accompagner l'autre, mais c'est vrai que si on veut être aidant, il va falloir de la patience, et aussi parce que chaque personne a ses propres ressources, hein, et on ne peut pas plaquer en fait nos propres ressources sur l'autre, puisque nous, on n'est pas endeuillés. Donc c'est difficile, puis de toute façon, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, parce que chacun a ses propres ressources, et chaque moment, chaque temps dans la vie va faire qu'on a certaines ressources, et à un autre moment, on va en avoir d'autres, ou même on en aura très peu. Donc, comme tu l'as dit Anne-Marie, le plus important, en fait, c'est de lui permettre, si on peut bien sûr, d'exprimer ses émotions, ses peurs, ses doutes, ses colères, sans vouloir la détourner à tout prix de son chagrin. Le « tu m'appelles si tu as besoin » n'est pas une aide concrète. Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances que la personne n'appelle pas, tout simplement. D'une part, parce qu'elle n'a pas la force, peut-être, à ce moment-là, de prendre le téléphone et d'affronter les réactions de l'autre. Et aussi, elle a peur de déranger avec ses problèmes. Hein ? Souvent, les personnes vont nous dire « oui, mais bon, je ne vais pas te déranger », parce qu'ils vont répéter leur peur, leur tristesse, leur chagrin. Alors, c'est jamais tout à fait la même chose, mais pour la personne qui écoute, on a l'impression que c'est la même chose. Du coup, il vaut mieux, au contraire, dire à la personne qu'on est là, qu'on est présent, de lui dire aussi de ne pas avoir peur, en fait, que ça ne la dérange pas, qu'on est là, qu'on est proche. Et il faut surtout éviter des phrases comme bah, « c'est mieux pour lui, hein, il souffrait tellement, tu comprends ?» ou alors « tu t'en sortiras, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera » ou bien « tu feras d'autres enfants ». Il faut être forte, ça fait partie de la vie. Il faut tourner la page rapidement et passer à autre chose. Donc toutes ces phrases, évitez-les, parce que si jamais vous les entendez pour vous, vous verrez qu'en fait c'est très blessant. C'est comme des petites aiguilles là qu'on envoie, hein, et la personne, elle se sent jugée, elle se sent pas comprise. Donc ça ne l'aide pas. Si vous savez pas quoi dire, ne dites rien. Dites simplement « je suis là ». Mais évitez ce genre de phrases. Parce qu'il faut au contraire laisser le temps d'exprimer ce que la personne a besoin de dire, sans chercher de solution immédiate pour qu'on aille mieux. Alors c'est vrai qu'on est dans une société, problème, solution, zéro défaut. Non, ben non. Le comportement humain, la psyché humaine, les difficultés de la vie font qu'on a besoin de temps, on a besoin d'exprimer les choses. Donc plutôt appeler de temps en temps, pour offrir une écoute et être patient si la personne semble répéter les mêmes choses. Ne pas avoir peur de rendre la personne triste, ça je l'ai souvent entendu. De toute façon, dites-vous qu'elle est triste et qu'elle y pense. Elle y pense tout le temps. Donc ce sera une occasion pour elle de pouvoir en parler. Et rassurez-vous, si elle ne souhaite pas en parler, elle passera à autre chose. Elle ne se sentira pas obligée d'en parler. Envoyer un petit mot, un mail maintenant, hein, ou une carte postale. Vous savez, ça fait toujours plaisir, une carte postale. Mais surtout, on peut être actif. Et ça, on oublie souvent. On peut proposer ses services pour faire des courses, apporter un repas, vous voyez, apporter quelque chose de déjà cuisiné. La personne, elle n'a pas besoin de faire un repas. Alors, bon, ça dépend. Vous avez des personnes qui sont dans l'hyperactivité, ou d'autres qui sont complètement démotivés, qui n'arrivent même plus à faire un repas. Donc c'est un peu à vous de vous adapter. Mais c'est vrai que aider, proposer une aide pour cuisiner un repas, pour garder les enfants, s'occuper d'une personne âgée, et aussi aider à remplir les papiers. Vous savez, les papiers, on en a beaucoup. Donc ça peut vraiment aider. Accompagner la personne dans ses rendez-vous, qu'ils soient administratifs, médicaux ou autres. Aussi l'aider dans les formalités par rapport au décès. Voyez, l'écouter, qu'est-ce qui serait important pour elle ? Est-ce que la personne, elle a laissé ses dernières volontés ? Des choses comme ça. L'aider à organiser les funérailles. Le plus important, en fait, c'est d'être présent et de montrer qu'on peut compter sur vous, que vous êtes là. Il n'est pas nécessaire forcément de dire des choses, mais simplement d'être là, d'essayer de demander quels sont ses besoins et de le faire, quoi. Il faut proposer une aide claire. Ce n'est pas « si tu as besoin, demande-moi », c'est plutôt « viens manger et apporte-moi ton linge, je fais le repassage ce soir ». Vous voyez, il faut être direct. Si la personne refuse par politesse, vous pouvez proposer autre chose. Et puis, vous verrez si elle finit par accepter ou pas. Ou bien, je suis disponible demain et je viendrai t'aider pour vider l'appartement. Vous voyez, il y a tout le problème d'un déménagement, éventuellement, ou de vider, de trier les affaires du défunt. Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir tout enlever d'un seul coup et des personnes qui vont mettre des mois et peut-être des années à enlever certaines choses. Et là, il va falloir s'adapter aussi. On peut proposer déjà de faire un premier tri, de faire un premier tri, mais il ne faut pas forcer. Il ne faut pas dire oui, il faut tout enlever, il faut repeindre la chambre, il faut changer. Voilà, éviter de prendre des décisions trop rapides, des changements trop brutaux. Il faut le faire progressivement, à la mesure en fait du désir de la personne. Et puis, dites-vous qu'on a quand même le droit de garder des souvenirs. Vous voyez, alors, on peut avoir des photos, on peut avoir pas mal de choses, hein. Mais il faut éviter de garder la chambre telle qu'elle est, on va dire. Je me souviens comme ça d'une dame, quand on arrivait chez elle, il y avait la pipe de son mari dans le cendrier, elle avait fait le repas pour deux, il y avait toujours toutes les affaires de son mari. Bon, petit à petit, voilà, on lui a proposé de changer un peu quelque chose. Alors peut-être d'enlever la pipe, ou bien de garder la pipe, mais d'enlever la veste. Voilà, c'est-à-dire qu'on va y aller avec délicatesse et faire les choses doucement, parce que chaque personne est différente et chaque objet, en fait, va représenter la personne. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est de donner des affaires qui vont être portées par des proches. Ça, je l'ai vu aussi et ça peut être délicat. Ouais. Il vaut mieux laisser dans des cartons et puis un jour on fera le tri ou alors donner à une association. Et on ne voit plus les affaires une fois qu'elles sont vidées, une fois qu'elles sont données. Ça peut être important aussi. Du coup, voir avec chaque personne. Et puis, petit à petit, hein, on peut être un peu créatif sans forcer, vous voyez, sur les activités qui demandent un effort parfois trop grand. Mais demander ce qui est possible, des promenades, des sorties, des lectures, écouter de la musique, des choses simples. Donner la permission de prendre son temps. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de précipiter les choses. Et aussi les décisions importantes, hein, attendre que cette phase de désorganisation, quand même, si on peut, qu'on arrive un petit peu à une phase de réorganisation pour prendre des décisions importantes. La spiritualité aussi peut aider. Retrouver un partage autour d'un événement spirituel ou religieux, participer à une messe ou s'intéresser à une spiritualité. Une dame témoignait que ce qui l'avait beaucoup aidée quand elle avait perdu son fils, c'est de savoir qu'il était heureux là où il était et qu'elle pourrait le retrouver un jour. Voilà, chacun après a ses croyances, chacun, et ça va être important de respecter ça, mais aussi de permettre à la personne en fait, de retrouver ce qui est au fond d'elle. En termes spirituels. Et puis, s'entourer de choses vivantes pour faire recirculer l'énergie, comme des plantes, des fleurs, des animaux. Vous voyez, prendre un petit animal à ce moment-là, ça peut donner de la chaleur, de la vie à la maison. Alors, des fois, la personne ne va pas être capable de s'occuper d'un petit animal. Alors, vous me direz, ça peut être un poisson rouge, hein, c'est pas forcément un chat ou un chien. Voilà, quelque chose qui va ramener de la vie. Et puis, petit à petit, quand on voit que la personne, elle commence à retrouver de l'énergie, on peut proposer des choses un peu plus ludiques, un peu plus importantes, comme le dessin, la peinture, aller au concert, au théâtre, apprendre une langue ou l'approfondir. Enfin, vous voyez, tout ce qui peut aider la personne, ce qui lui fait plaisir. Faire de la relaxation, du yoga, de la gymnastique douce, voilà. Donc, petit à petit, en fait, c'est l'aider à sortir d'un sentiment de solitude et refaire des liens avec des personnes significatives. Donc comprendre que le processus de deuil prend du temps, c'est aussi accepter qu'une perte peut faire ressurgir la blessure d'autres pertes antérieures. Donc chaque personne le vivra à sa manière et ça c'est vraiment important de le comprendre. On peut aussi conseiller des livres simples qui sont faciles à lire sur ce sujet comme « Vivre son deuil au jour le jour » de Christophe Fauré, ou bien « Vivre son deuil et croître » de Rosette Poletti.
Donc, à chaque rencontre, nous allons vous proposer quelques lectures pour vous et pour la personne endeuillée et un temps pour prendre soin de soi.
Être aidant, c'est aussi donner des informations sur l'existant. L'association Jalmal 04 donc, reçoit des personnes endeuillées pendant la permanence à Digne. C'est tous les quatrièmes mardis de chaque mois au centre des Michel à Digne. On signale aussi qu'il y a un groupe d'entraide au deuil qui est organisé chaque mois sur Digne. Tout ceci est entièrement gratuit. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 92 32 11 01, par mail à jalmal04@wanadoo.fr ou sur notre site jalmal04.wordpress.com. Nous organisons également une session résidentielle de 3 jours pour vivre son deuil, qu'il soit ancien ou récent, animé donc par Anne-Marie et moi-même. Je passe la parole à Anne-Marie.
Pour vous inscrire, vous pouvez vous inscrire sur mon site internet amjagiduformation.com. Sinon, vous pouvez nous contacter. Et je vous informe aussi que pour les personnes qui le désirent, il y a aussi un week-end pour les couples, prendre soin de son couple et croître, afin d'améliorer la relation. Plus d'infos, pareil, sur mon site et aussi sur le site de Fréquence Mistral.
Pour terminer, nous dirons que le processus de deuil se recycle chaque année aux dates anniversaires et que même si ces jours-là, la personne elle peut être triste ou en colère, elle va cheminer avec ses blessures, ses pertes et peu à peu retrouver du sens à sa vie. Alors nous nous retrouverons donc tous les mois le premier vendredi du mois. Donc le mois prochain, ce sera vendredi 6 mars à 10h sur le thème « Quand mon conjoint est malade, comment je le vis ?» Pensez aussi à envoyer vos questions en avance à Fréquence Mistral sur le mail digne@fréquencemistral.com. On vous dit au revoir
et à bientôt.